Chloé Mahé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Si tu souhaites en apprendre plus sur les possibilités qui s'offrent à toi et que tu recherches une bonne dose d'inspiration, tu es au bon endroit. Alors, bonne écoute. Magali est pharmacienne entrepreneuse et coach. Après plus de 10 ans dans l'industrie pharmaceutique et notamment aux affaires médicales, Magali se lance dans l'entrepreneuriat avec sa première société, Medi3C. Medi3C est une société de coordination et d'accompagnement de projets médicaux et de création de contenu médical. Tout récemment, Magali a lancé sa seconde boîte, Harmonie et Performance Coaching, qui sensibilise les entreprises sur l'importance du bien-être et de l'harmonie des salariés. Dans cet entretien, Magali nous raconte son histoire et nous fait passer de nombreux messages qui, à mon sens, sont essentiels, tels que l'importance de l'alignement tête-cœur-corps, de faire ce que l'on aime et surtout de suivre son intuition. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée de Magali Fournier qui a travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant plus de 10 ans et notamment aux affaires médicales. Magali est aujourd'hui auto-entrepreneuse et fondatrice de Medi3C. Bonjour Magali, comment allez-vous ?
Bonjour Chloé, ça va très bien et toi ?
Ça va super, ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast.
Ravie aussi d'y participer.
Alors du coup pour commencer je vais vous laisser vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours et de comment vous en êtes arrivée là où vous en êtes aujourd'hui.
Alors, mon parcours, donc de formation, je suis docteur en pharmacie, je sors de Paris 11, Châtenay, avec le double cursus, avec le master marketing pharmaceutique, du temps où c'était Monsieur Fallet qui l'organisait. Donc, je suis sortie de la fac en 2008, ça ne me rajeunit pas. J'ai commencé ma carrière en agence de com', puisque j'avais fait des stages dans l'industrie pharma pendant mes études, mais ils n'embauchaient pas de junior au médical. J'avais découvert les affaires médicales chez Servier. J'étais en stage en marketing, parce que j'étais en master de marketing. Et j'avais beaucoup plus accroché avec le médecin produit qu'avec le chef de produit. Donc, du coup, j'avais au départ cherché un poste de médecin produit, comme on appelait ça à l'époque. Je connaissais pas le poste de MSL à l'époque, il était très peu connu. Et ils embauchaient pas de junior. Pas de junior, pas de médecin, quels que soient les laboratoires. Donc, j'ai cherché un peu ce que je pouvais faire. Et c'est pour ça que j'atterris en agence de communication. Comme ça, je me suis dit que j'allais me former sur plusieurs domaines, plusieurs jobs, le job de commercial, la présentation publique, la rédaction scientifique, etc. Donc, j'ai commencé par une agence de relations presse qui s'appelle Capital Image, qui existe toujours avec Stéphanie Chevrel et Gaëlle Devoma. Si vous m'écoutez, je ne vous ai pas oublié. Après, je suis passée chez un groupe de presse. Qui s'appelait le groupe Impact Médecine, qui n'existe plus à présent, mais qui était un gros groupe de presse médicale à l'époque, où on avait un hebdomadaire qui s'appelait Impact Médecine, et il y avait des mensuels de spécialités qui s'appelaient les abstracts, donc abstracts en dermato, en gynéco, etc. Et ils avaient une agence de com intégrée, qu'on appelait le pôle opération spéciale, et donc j'ai intégré le pôle opération spéciale pendant 4 ans, qui était un pôle dédié aux opérations de communication des laboratoires, sous les têtières de la presse. Donc, ça a été super formateur en termes de relations clients, puisque j'étais prestataire, mais aussi d'apprendre comment fonctionnait la presse, écrire un titre, écrire un chapeau, etc. Je découvrais tout ça, donc c'était super formateur. Et puis, au bout de 4 ans, j'en ai eu marre de survoler un peu tous les domaines, parce que je passais de la dermato à la rhumato à la gynéco. Donc, super intéressant quand on est junior, mais après, j'avais l'impression de manquer de fond. Et du coup, j'ai commencé à chercher, à repasser côté client. Et je suis tombée sur Monsieur Sylvain Forget, qui cherchait un responsable médical pour une petite boîte qu'on appelait Swedish Orphan Biofitrom, donc SOBI en plus court. Et donc, pour la petite anecdote, je suis tombée là totalement par hasard, parce qu'à l'époque, j'avais envie de partir m'installer dans le sud. Donc, j'avais postulé dans plein de boîtes qui étaient à côté de Marseille, de Toulon, donc de Vitrolles. Et en fait, quand l'ARH m'a appelée, j'étais dans les couloirs d'Impact Médecine et j'ai pas bien entendu ce que dit Champagne Biovitrom. Tout ce que j'ai entendu, c'est Vitrom. Donc, j'ai confondu avec Vitrol. Donc, je me suis dit, chouette, je vais partir dans le sud. Et donc, au départ, j'ai dit, mais je peux pas être présente pour un entretien la semaine prochaine, c'est compliqué. Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, on se voit sur Paris. Bon, bah, ok, pas de souci, on se voit sur Paris. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, non, je n'irais pas du tout habiter dans le sud, mais que les locaux étaient dans le 17e à Paris. Mais en fait, ça a été un tel coup de cœur avec la boîte et avec l'équipe que c'était génial. Et en fait, quand j'ai passé l'entretien, on m'a dit que tu seras responsable régional. J'ai demandé de quelle région, on m'a dit la France. Donc, ok, belle région. Puisque la France gérait aussi l'Afrique du Nord et d'autres pays. Donc j'ai été MSL, à la fois MSL, à la fois Medical Advisor, à la fois responsable formation, responsable PV, responsable information médicale pour les aires thérapeutiques que je gérais. Donc, c'était des maladies rares. Donc, ça a été génial. Pendant 4 ans, je me suis promenée dans toute la France. J'ai découvert des médecins géniaux qui m'ont formée sur les maladies auto-inflammatoires, donc les maladies rares que je gérais. Des partenariats phénoménaux que je garde encore en mémoire. J'ai des photos de board encore sur mon bureau pour les rencontres qu'on a organisées pour la première fois. Donc, ça a été génial au bout de 4 ans. Mais j'ai découvert aussi le problème des maladies rares, c'est que les labos n'ont pas de budget. Donc, en fait, j'ai plus souvent appris à dire non aux médecins, même si les projets étaient super, mais on n'avait jamais les financements. Donc, au bout de 4 ans, j'en ai eu un peu marre c'était un peu dur pour moi de devoir dire non à des projets top. Donc, je lui ai dit, il faut que je parte dans une big pharma. Il faut que je teste d'avoir de l'argent pour pouvoir rendre aux médecins ce qu'ils m'ont apporté pendant 4 ans. J'ai été approchée par Celgene qui montait sa BU immuno-inflammation. Donc, j'ai participé à cette aventure, donc création d'équipe. C'était top. Je suis arrivée avec le directeur médical. Donc, on a recruté toutes les équipes, création du storytelling du produit, l'accès au marché, etc. Donc, ça a été génial. Et puis, en fait, à chaque fois, j'ai eu de la chance et que je me suis fait chasser. En fait. Et donc, j'ai eu un problème de riche, c'est qu'à chaque fois, on m'appelait pour me proposer autre chose. Et comme j'aime bien la nouveauté, j'ai changé assez souvent, ce qui explique aussi que je suis arrivée en auto-entrepreneur, c'est qu'en fait, je me lasse assez vite des choses. Et du coup, j'ai été chassée par Abby, qui refondait toute son équipe médicale et donc qui cherchait un medical advisor sur la rhumato. Donc, j'ai fini là. Et donc, c'était Abby, la dernière société pour laquelle j'ai travaillé en tant que salariée. Voilà, où j'ai fait 2 ans et demi. Et puis, j'ai découvert que les grosses boîtes n'étaient pas pour moi. Que je rentrais pas dans, même si les fiches de poste étaient très larges, qu'on disait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, il y a quand même un cadre, il y a des règles à respecter dans les grosses boîtes, et je me suis rendu compte au bout de 2 ans que j'avais pas le profil. J'avais plus le profil pour répondre à ça. Et donc j'ai eu une vraie remise en question, j'ai fait un coaching avec Monsieur Forget, qui est coach aussi, en disant qu'est-ce que je fais? Je me plais plus, j'adore le job, mais je m'y plais plus, tel qu'il est. Et donc, on en est venu au point en disant, bah, faut que tu te mettes à ton compte. Lui m'en avait déjà parlé il y a plusieurs années. Je lui avais dit que j'aurais jamais les épaules pour, que je saurais jamais faire. Et en fait, je me suis lancée. J'ai osé me lancer. Et donc, j'ai créé Midi 3C en 2019. Oui, ça fait 2 ans et demi. Midi 3C sur le conseil communication. C'est une, puisque, c'est une aventure qui continue, donc c'est une super aventure. Et là, je me lance dans un deuxième bébé. Je viens de créer une deuxième société. Midi 3C existe toujours. Mais j'ai fait une formation de coaching à HEC pendant 15 mois. Et donc là, pour toute la partie coaching, j'ai créé une deuxième société. J'ai une serial entrepreneuse, comme on dit. Donc la deuxième société s'appelle Harmonie et Performance Coaching. Voilà. Donc là, c'est tout nouveau. Elle date même pas 3 semaines.
Ok. Donc. De ce que je comprends, Sylvain Forget, ça a un peu été votre mentor.
C'est mon mentor. Oui. Il est
C'est toujours votre
il est
mentor.
Toujours.
Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le concept de Medi 3C?
Le concept de Medi 3C, c'est d'apporter le soutien scientifique, le soutien médical, que ce soit aux prestataires ou aux laboratoires qui n'ont pas la structure en interne. Les petits labos qui n'ont pas encore de département médical ou qui ont un département médical mais qui est un peu dépassé, qui n'a pas le temps de tout faire. Donc, je prends le surplus d'activité. Je sers de chef de projet scientifique aussi pour des groupes de presse. Chef de projet, typiquement pour Fréquence Médicale, je les aide sur des newsletters. Coordination avec les médecins, réception des textes, réécriture des textes si besoin, etc. Donc, toute la connaissance scientifique et de la presse m'aide de ce point de vue-là, ou des laboratoires qui externalisent totalement une partie, organisation d'événements scientifiques, organisation de board, qu'est-ce qu'on a, organisation de colloques, je le fais aussi. C'est ça, c'est vous offrir un référent médical si vous n'en avez pas en interne.
D'accord.
et à moindre coût par rapport aux très grosses structures, puisque moi, l'avantage, c'est que je suis toute seule. Donc, au niveau flexibilité, au niveau adaptabilité, c'est plus facile pour moi.
Ok, donc c'est de la création de contenu et de la coordination de projets médicaux.
C'est ça.
Ok. Et pourquoi vous n'avez pas plutôt essayé de... Enfin, pourquoi vous n'êtes pas plutôt lancé dans la freelance? Pourquoi vous avez décidé de créer une société?
Alors, parce que pour moi, c'était le passage. Je ne me voyais pas me lancer uniquement freelance sur des plateformes comme Malte, etc. C'était beaucoup trop incertain. J'avais pas de visibilité, alors que là, en ayant créé la société, ça rassure aussi, ça rassure les clients. Il y a un statut, donc il y a une permanence. On sait que la personne ne s'est pas lancée juste pour 3 mois comme ça à faire des missions. Ce qui n'empêche que je me suis aussi mise sur Malte, hein, mais le domaine est beaucoup trop particulier pour me rapporter beaucoup de missions. Donc, le statut, je trouvais que le statut société faisait plus sérieux par rapport aux clients que je visais.
D'accord, ok. C'est vrai que Malte, c'est pas spécialement... Enfin, c'est pas spécialisé, quoi. Donc, je pense pas que ça va percer tant que ça dans la pharma, quoi. La pharma, c'est un acteur qui...
Même s'ils essayent.
Ouais, mais...
Ils essayent, ils font des pools. Ils me contactent tous les 6 mois en me disant « On crée un pool d'experts santé. » Donc, à chaque fois, je leur dis oui, bien sûr. Mais bon, ils ne rappellent jamais derrière. Mais voilà, c'était plus... C'est pas tant en termes de rapporteur d'affaires que j'ai préféré le terme de société, mais c'était plus en termes d'image.
D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que l'industrie pharma, ils ont besoin de sécurité, quoi. C'est pour ça que Malte, ça percera pas. Enfin, je pense pas, en tout cas. Pas dans la pharma.
Ou à commencer par les petites boîtes, qui sont moins process, qui ont moins de process de référencement, etc. Parce que là, quand on travaille avec des gros, il y a tout un travail de référencement, de se confronter au service achat, etc. Donc, il faut un savoir-faire.
Et vous prévoyez...
Déjà pour ça.
Vous prévoyez de recruter, du coup, ou...
Alors, pour l'instant, non, parce que pour l'instant, je ne me paye pas encore. Donc, pour l'instant, la société, on est encore à ses débuts. Enfin, les deux sociétés, on sont encore à leur début. Donc, pour l'instant, je gère toute seule. Mais à l'avenir, pourquoi pas? Si l'activité explose, pourquoi pas? Ce sera un dilemme. Ce sera le dilemme du riche. C'est est-ce que je dis non à des projets pour rester toute seule ou est-ce que j'embauche pour avoir plus de projets? Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Pour l'instant, j'arrive à gérer toute seule.
Ok. Et comment vous faites pour gérer, du coup, 2 sociétés? Enfin, même si c'est tout nouveau.
Alors, l'avantage, c'est que ce sont 2 activités très différentes. Ça ne se recoupe pas du tout. Quand je travaille pour Midi3C, c'est vraiment le côté scientifique, etc. Quand je travaille pour Harmony Performance, pour l'instant, c'est que de la prospection. C'est du coaching, donc c'est pas du tout les mêmes choses. Donc, c'est pas... L'avantage, c'est que même si j'ai une cible identique d'industrie pharma, je vais pas contacter les mêmes personnes. Quand je contacte pour Midi3C, je vais contacter les directeurs médicaux, les chefs de projet, le marketing, etc. Si je contacte pour Harmony et Performance Coaching, je vais plutôt m'adresser au DG ou au RH. Ressources humaines. Après, c'est une gestion de temps. Gérer les 2 sociétés, c'est un peu comme gérer. Je gère 5 ou 7 clients sur Medi3C. Comment je fais pour passer de l'un à l'autre sans me tromper, etc. C'est de l'organisation, c'est des tableaux, j'ai un suivi de temps pour chacun, pour avoir un suivi très précis de ce que je fais et une facturation adéquate. Quand on devient entrepreneur, en fait, c'est de l'organisation. Donc, il y a une journée, je vais me dire, bah là, aujourd'hui, je n'ai pas d'urgence sur Midi3C, je suis à jour dans mes projets, tout est online, enfin, on time, etc. Bah, je vais faire un peu de prospection sur HPC.
D'accord.
Donc, je dédie cette journée HPC. C'est comme ça. Mais c'est comme passer d'un client à l'autre sur Midi3C, en fait.
Ok. Quel est le projet, du coup, de Harmony et Performance Coaching?
Harmony et Performance Coaching, donc la tagline de la société, c'est oser plonger en soi pour devenir. Faire comprendre aux salariés et aux RH, puisque le coaching est souvent prescrit par les ressources humaines, que l'harmonie de ses salariés, c'est pas juste pour faire joli et que ça peut les aider dans la performance. Souvent, on dit bah, le bonheur des salariés, c'est pas mon problème. Effectivement, le bonheur des salariés n'est pas le but ultime de la société. Maintenant, s'ils ont des salariés en harmonie avec eux-mêmes, ce sont des salariés qui sont plus performants. Ça a été démontré, il y a des tas d'articles, il y a des bouquins qui ont été écrits dessus. Donc, c'est d'essayer de faire comprendre ça aux entreprises, qu'elles soient du domaine de la santé ou pas, J'ai aussi pour en vision de contacter d'autres sociétés que l'industrie pharmaceutique. Mais c'est de faire comprendre. J'ai rencontré durant mon passé trop de personnes qui faisaient un job sans savoir pourquoi elles le faisaient, qui n'étaient pas en accord, qui ne connaissaient pas les valeurs de l'entreprise pour laquelle elles bossaient, que ce soit petite ou grande, ça n'a pas de ça pas de rapport avec la taille de l'entreprise. Donc il faut il y a deux axes pour HPC. C'est un, le coaching d'entreprise, si je caricature, c'est vous, entreprise, quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en avant? Pour que les salariés les connaissent, il faut que l'entreprise les ait définies. Et côté salarié, est-ce que les valeurs de l'entreprise collent aux vôtres? Parce que souvent, s'il y a un problème de performance, s'il y a un problème de communication, s'il y a un problème de bien-être dans l'entreprise, c'est que on est en conflit avec ses propres valeurs. On vous demande de faire des choses qui ne sont pas en accord avec avec votre éthique. Et du coup, c'est comment on fait? Est-ce que, déjà, identifier le problème? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Donc ça, c'est tout un travail, c'est toute une mission de coaching. On fait ça sur 8-10 séances, identifier le problème et comment on le solutionne. C'est pas forcément la fin, parce que je vois la caricature qu'on peut faire de ce raisonnement, c'est on va pousser tout le monde à partir, parce que s'il y a un conflit de valeurs, on quitte l'entreprise. Il peut y aussi avoir un conflit de valeurs parce que les valeurs sont mal communiquées de l'entreprise. Et donc là, c'est plus un problème de réconciliation que de dire je suis pas en accord avec les valeurs de l'entreprise, je quitte l'entreprise. Ça peut se terminer comme ça. Mais il vaut mieux avoir des salariés qui restent et qui sont bien plutôt que d'avoir que des salariés qui restent et qui ne sont pas bien et qui vont finir en burn-out et en arrêt de travail à long terme. Donc voilà un peu le projet.
Ok, c'est marrant ça quand même, cette mentalité de se dire que le bien-être des salariés, c'est pas l'affaire de l'entreprise. Moi, enfin, je trouve que c'est une évidence que si la personne elle est bien, elle va forcément être beaucoup plus productive si elle aime son travail, alors que si elle l'aime pas, c'est là qu'on va l'avoir procrastiné sur les réseaux sociaux et qu'elle va faire le minimum en fait. Donc c'est
une question de génération.
Oui, nous on est, enfin j'ai l'impression.
Je pense que
pour nous c'est une évidence quoi. Enfin,
c'est une ouais. Pour les nouveaux, c'est pour ça que je dis c'est intéressant, ça va être intéressant de voir comment votre génération va disrupter le modèle, puisqu'il y a des choses. Moi, tu vois, ma génération, et on n'est pas si. On n'a pas non plus 50 ans d'écart. Ma génération et celle d'avant, de mes parents, etc., c'était ton manager te dit quelque chose, tu le fais. Tu ne poses pas de questions, tu ne demandes pas pourquoi. Même si tu te poses la question du pourquoi, du sens, etc., tu ne la poses pas vraiment. L'entreprise te dit ça. Moi, quand j'ai commencé, enfin, quand j'étais en études et tout, on me disait, tu vas être cadre. Cadre, c'est corvéable à merci. Non, c'est plus du tout ça. Mais c'est aussi le problème des managers, c'est qu'ils sont pas de votre génération encore. Donc, il y a un conflit de génération aussi à amortir et de faire comprendre aux vieux briscards que les jeunes n'ont peut-être pas tout à fait tort. Parce que souvent, on dit, les jeunes, ils veulent tout casser, ils veulent tout changer, etc. Oui, mais il y a raison. Le modèle fonctionne, mais est-ce qu'il fonctionne bien? C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça. Enfin, je sais plus qui, je crois que c'est Einstein, dit si on veut changer les choses, il faut changer la façon de faire. Si on fait toujours la même chose, on arrivera toujours au même résultat. Si on veut avoir des performances qui augmentent, et une éthique, l'éthique, la RSE commence à monter aussi dans les domaines de préoccupation, de choix d'entreprise, etc. Ce sont des domaines qui ne sont pas que de la communication et que de l'image. Il faut que ça se reflète dans les actions. Okay. Et ça, le coaching peut y aider.
Ok. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle, le gap générationnel, parce que c'est vrai que nous, on est vachement sensibilisés à tout ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui mènent des actions. Enfin, la plupart des jeunes veulent être heureux au travail et faire... Enfin, on parle même beaucoup de mission de vie, quoi. On est très axé développement personnel. Enfin, moi, je crois vraiment à la mission de vie et d'apporter quelque chose, quoi. Et d'être heureuse dans mon travail.
Alors que de mon temps, tu trouves un job et t'es content. Tu te posais pas la question du choix de l'aire thérapeutique. Si on revient sur le domaine de l'industrie pharma, est-ce que je veux bosser sur un produit de maladie rare à haute valeur ajoutée qui va sauver des vies de petits enfants, si je caricature, ou est-ce que je veux bosser pour le énième sous-type de Doliprane, enfin générique de Doliprane? Qui va être de l'OTC, etc. J'ai rien contre le Doliprane et l'OTC, etc. C'est pas du tout ça, mais quel est le choix qu'on fait? Est-ce qu'on peut se offrir le luxe de dire, je refuse un job chez Tartampion, je ne vais pas citer le nom parce qu'après je vais me faire taper dessus en disant que je suis contre les gros labos, ce qui n'est pas du tout le cas. Je refuse un job chez Tartampion qu'on me propose pour attendre le job chez X ou Y, qui est la startup qui va monter et que j'ai targeté parce que c'est elle qui m'intéresse en termes de mission. C'est une réflexion qu'il faut avoir. Mais il faut être droit dans ses bottes pour pouvoir expliquer ses choix et vivre avec.
Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à choisir le choix du cœur, entre guillemets, de la mission qui va nous plaire, quoi, de notre génération, que l'argent tout de suite. Mais le mieux, c'est d'allier les deux, de pouvoir allier les deux.
Quand on peut allier les deux, c'est l'idéal. Après, c'est est-ce que je suis capable de faire, est-ce que j'ai besoin de l'argent, donc je vais renier sur ma mission de vie pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, le temps d'attendre, mais je reste à l'affût du marché, je reste à l'affût de ce qui peut se faire, etc. Ou est-ce que je me consacre 100% à ma mission de vie, si je peux le faire. Et en fait, le coaching, c'est ça. Le coaching, c'est pas le coaching va pas donner au coaché ce qu'il faut faire. Le coaching, c'est l'accompagnement pour que la personne trouve les solutions à ses problèmes. C'est le coaché qui bosse. Mmh. Parce que souvent, on me dit, faut pas confondre avec le conseil. Le coaching n'est pas du conseil. Le conseil, on arrive, le client avec une problématique, je ne sais pas si je dois faire A ou B. Moi, avec mon expérience, quand je fais du conseil, je dis, il vaut mieux, vu le projet, etc., vaut mieux faire solution B. OK. Le coaching, le client arrive avec, je ne sais pas si je dois faire A ou B, on va faire des exercices, on va réfléchir. Je vais vous guider pour que vous sachiez si vous êtes plus à l'aise avec la solution A ou la solution B. Ça prend plus de temps, mais ça responsabilise la personne et on est sûr que la personne sera en accord et appliquera les choses puisque ça viendra d'elle. Ce sont ses propres solutions. Ce n'est pas les solutions d'une autre personne qu'elle devra appliquer.
Très intéressant.
Et c'est un investissement différent.
Donc du coup, vous proposez des coachings à la fois pour les dirigeants que pour les employés.
Dirigeants, employés, équipes. Parce que quand il y a un problème de communication, ça peut venir d'une personne ou ça peut venir d'une dynamique d'équipe. Donc on peut faire un travail en équipe, savoir pourquoi telle et telle personne ne s'entendent pas, pourquoi tel manager a un problème avec son équipe. Donc ça peut être aussi du coaching d'équipe. Ça peut être ce qu'on appelle les coachings de la dernière chance, les personnes qui sont, si une coaching ne marche pas, on la fera partir de l'entreprise. Donc ça, il faut que ce soit clair et net pour tout le monde dès le départ, parce que sinon c'est compliqué. Ça peut être des coachings de prise de poste. Une personne est promue manager. Être manager, ça ne s'improvise pas. Souvent, dans les entreprises, le poste de manager, c'est une récompense. En disant, tu as passé X temps en poste de manager, ta récompense, c'est que tu passes manager. Tout le monde n'est pas fait pour être manager. Il y a des personnes pour qui c'est inné. Il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué. Donc, on peut faire un coaching d'accompagnement de prise de poste pour être sûr que la personne prendra bien, sera à l'aise dans son poste, ne subira pas trop de pression. Ça peut être, typiquement, on en discutait, les pharmaciens responsables, qui sont des personnes à des très hauts niveaux d'exigence, de responsabilité. Il n'y a pas de formation. Comment on devient, il y a une formation réglementaire, mais il n'y a pas de formation, comment on gère cette responsabilité-là de devenir pharmacien responsable. Et ça, c'est que pour l'industrie pharmaceutique. Les médecins, les pharmaciens, je vois le nombre de pharmaciens qui me disent, mais on a un turnover dans la pharmacie, on ne comprend pas pourquoi les gens ne restent pas, etc. On ne forme pas les pharmaciens d'officine à devenir manager. On les forme à devenir chef d'entreprise. Donc, il y a la formation compta, droit, etc. Mais on ne les apprend pas à gérer une équipe. Donc c'est pour ça que souvent, les pharmaciens ont du mal à se positionner en disant je suis membre de l'équipe, mais en même temps, je suis leur chef. Donc, quand je leur demande de faire plus de performances, ils me voient comme le chef. Et après, quand je veux venir prendre un café et taper la discute avec eux, ils sont distants. Oui, parce que il y a un ajustement à trouver. Donc, ça, je suis en train de proposer aux pharmaciens d'officine un accompagnement là-dessus. Les problèmes de santé. On sait que les problèmes de santé, souvent, ont un problème avec les patients de communication, parce qu'ils parlent un jargon que les patients ne comprennent pas. Ils ont un temps qui est très restreint donc, et ils sont vus comme assez hautains par les patients. Ce qui n'est pas le cas, c'est un problème de manque de temps, c'est un problème de vocabulaire, etc. Donc j'aimerais, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à mettre en place, mais je cherche le moyen pour y arriver, d'aider ces problèmes de santé. Et en plus, c'est tout bénef pour eux, parce que s'ils ont une meilleure relation avec leurs patients, le suivi sera meilleur. Le patient ne cachera plus rien. Parce qu'on sait très bien que le patient a peur de dire certaines choses à son médecin, il va plutôt le dire à l'infirmière, etc. Là, l'information sera plus claire et transparente. Du coup, le suivi sera meilleur et il n'y aura plus ces images de patients qui attendent de voir leur médecin généraliste pour parler de choses dont ils auraient dû parler à leur médecin spécialiste et qui auraient pu changer leur prise en charge.
Okay.
Voilà, donc voilà toutes les pistes auxquelles je réfléchis.
D'accord, ok, super intéressant. Et qu'est-ce qui vous a motivé à monter cette seconde boîte? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer à nouveau?
Alors, c'est marrant parce que pendant la formation HEC de coaching, en fait, on se coach les uns les autres. On s'entraîne les uns sur les autres. Et au départ, moi, je me dis, pas besoin de monter une deuxième société. J'ai déjà Medi 3C, j'avais déjà prévu le coup parce que Medi 3C, c'est conseil communication coaching. Donc, moi, j'ai déjà prévu le coup, j'ai déjà ma société. Pas de souci. Et en fait, au fur et à mesure de la formation, je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas parler qu'à des médecins et pas parler qu'à des problèmes de santé. Donc, le Medi, pour médical, va peut-être bloquer certaines personnes. Si j'habite Reims, donc si je vais prospecter des maisons de champagne, on va dire pourquoi c'est une société médicale qui vient me prospecter pour du coaching. Je me suis dit, il va peut-être y avoir un conflit là-dessus. Et puis, je me suis dit, effectivement, ça va peut-être... Pendant un coaching, j'ai posé la question, enfin, je travaillais du coup sur cette question, de dire, bah, est-ce que Medi 3C, je ne vais pas un peu mélanger chou, carotte, pomme de terre, quoi. Je mets un peu de chefferie de projet, un petit peu de rédaction scientifique, et puis je rajoute un peu de coaching par-dessus. Donc en fait, quand je présente la société aux gens, ça fait un peu, je peux vous faire la poire, le fromage, un peu tout en même temps, et du coup, je trouvais ça pas très clair. Mais je me suis dit, mais d'un autre côté, la société existe et fonctionne, donc je ne veux pas la fermer. Et en fait, le résultat du coaching, ça a été que j'étais déjà en mouvement et que l'idée de créer la deuxième société était déjà ongoing dans ma tête. Donc le pourquoi, c'est il y a une question d'image. C'est-à-dire j'ai une structure pour chaque activité. Donc pour tout ce qui est activité scientifique, j'ai Medi 3C qui reste, qui est active et que je continue à faire fonctionner. Ça, il n'y a pas de souci. Et pour tout ce qui est coaching, j'ai HPC, j'ai Harmonie et Performance Coaching. Et c'est vraiment, je sépare les deux entités pour être très au clair dans ma tête en disant quand je suis sur l'une, je ne suis pas sur l'autre. Et on ne fait pas le mélange des genres.
D'accord, ok. Vous avez l'air très axé développement personnel, du coup j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des conseils là-dessus, enfin, pour les étudiants qui voudraient un peu découvrir cet univers, est-ce que vous avez des œuvres ou des podcasts à nous recommander?
Alors, il y en a beaucoup des œuvres. J'en ai déjà lu plein pour HEC et j'en découvre toujours d'autres. Déjà, si vous cherchez la mission de vie, la vidéo, alors que tout le monde a sûrement déjà vu, mais le why de Simon Sinek, qui est le gold standard et qui est quand on cherche la mission de vie. Il a écrit des bouquins sur trouver son why, donc qui existe en français si on n'a pas envie de qui est trouver son pourquoi, si on n'a pas envie de le faire en anglais, qui aide à définir un peu ce qu'on veut faire. Après, ouais, j'ai été en termes de littérature très axé sur des ouvrages techniques, sur certaines méthodes, l'analyse transactionnelle, la process communication. La programmation neurolinguistique, etc. Donc si je donne des conseils, ce sera peut-être un peu technique, mais il y a plein de podcasts qui existent. Je pourrais par la suite communiquer des liens si les gens veulent, mais en fait c'est se faire confiance. C'est moi, s'il y a une chose que j'ai découvert aussi pendant cette formation, c'est le pouvoir de l'intuition qu'on n'écoute pas suffisamment. Alors, quand on est branché Asie, yoga, bouddhisme, etc., c'est quelque chose qui parle beaucoup. Mais quand on est très, très européen et très cartésien, comme je l'étais, on coupe la tête du corps. Et on réfléchit qu'avec la tête et on oublie le cœur. Et en fait, ce qui est primordial, c'est l'alignement tête-cœur-corps. Et en fait, souvent, les maladies... Alors, Je ne fais pas de charlatanisme, je reste bien pharmacienne et fille de médecin dans mes bottes. Hein. Je suis pas totalement perchée sur ce point de vue-là, mais je suis convaincue, maintenant que j'y réfléchis, que beaucoup de maladies ou beaucoup de douleurs, sans parler de maladies, mais moi j'ai souffert de lombalgie chronique pendant des années, à être accro au tramadol, etc. À partir du moment où j'ai monté ma boîte, donc où je faisais ce que j'avais envie de faire de la façon dont j'avais envie de faire, je n'ai plus eu mal. Donc, je suis convaincue que quand on fait ce qu'on veut, dans la mesure du possible, je sais qu'on n'est pas au pays des bisounours et on peut pas toujours faire ce qu'on veut de la façon qu'on veut, mais quand on s'en rapproche le maximum, on est mieux dans son corps. Donc, l'alignement tête-cœur-corps, ça primordial, et suivre son intuition. Souvent, en fait, la première intuition, on dit souvent la première intuition est la bonne, c'est vrai. Faut souvent pas trop réfléchir, en fait. Plus on se pose des questions, plus on essaie de rationaliser, plus c'est compliqué. Mais ça vaut pour les affaires médicales aussi, hein, pour le développement personnel, mais pour les affaires médicales aussi. Hein. Le feeling avec les médecins, le quoi faire, etc., ça marche aussi. Hein.
C'est intéressant ce que vous dites. En tout cas, je suis complètement alignée avec ce que vous venez de dire. Moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de maladies, de douleurs comme ça qui sont causées par un non-alignement. Et justement, on en parlait avec une autre invitée, Karine Laurent, d'un épisode précédent. Et elle a quitté aussi l'industrie pharma pour faire un projet sport santé. Et elle travaille sur ça, l'approche tété-corps, l'alignement, en fait. Et c'est ce qu'elle disait dans l'épisode, que oui, il y a beaucoup de mots, M-A-U-X, qui sont dus justement à un non-alignement. Donc, je suis d'accord avec vous.
L'étymologie de maladie.
Le maladie. Le maladie.
On a oublié ça avec notre société de performance, d'image et de très cartésienne, très de toute façon, faut avancer, il faut pas se poser de questions. Mais en fait, il faut se poser les bonnes questions. Et pas trop écouter les on-dit, pas trop écouter les il faut, les il faut, je dois, tu dois pourquoi ? Est-ce que tu dois pour les bonnes raisons ? Si c'est parce que tu veux que ça te sort des tripes, etc., aucun souci. Si tu dis je dois parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça parce que ce serait bon pour ma carrière, réfléchis. Moi, ce que je dis aux étudiants, j'interviens à la fac de pharma, enfin tu le sais bien, mais en cinquième et en sixième année, et des fois en quatrième année en orientation, je leur dis, entre l'idée que vous faites de votre carrière, là, aujourd'hui, sur les bancs de la fac, et la carrière que vous aurez, ne restez pas trop collé à « j'avais dit que je ferais ça, donc il faudrait que je fasse ça ». Moi, quand j'étais en quatrième année, j'étais persuadée que je finirais directrice marketing d'une grosse boîte. Et en fait, pas du tout. Parce que quand j'ai découvert ce que c'était, c'est pas entre l'image qu'on a des choses et la réalité, faut savoir être flexible et s'adapter. Mais c'est valable dans la vie de tous les jours. Et tu vois, je fais le parallèle avec les affaires médicales. Entre l'idée que tu te fais quand tu arrives dans ton poste en disant il faudra faire ci, il faudra faire ça. Et puis après, quand tu discutes avec les médecins de la réalité de la prise en charge des patients, de la réalité de ce que c'est que de prendre, de voir ses patients à l'hôpital. Du manque de moyens ou au contraire pléthore de moyens sur ce que tu avais envisagé de faire en termes de communication, mais qu'en fait il y a un champ de com qui est totalement inexploré où tu peux avoir carte blanche. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir les écouter, c'est eux qui savent, et c'est la différence. Souvent nous en industrie pharma, on arrive avec une posture de sachant. Oui, tu sais sur ton produit, tu connais le développement de ton produit, tu connais tes données cliniques, mais la façon dont tu utilises ton produit, dont tu as vécu le produit, l'expérience patient par ton patient, tu la connais pas. C'est ton patient, ton prescripteur, et voire même ton prescripteur, à mon avis, a des biais parce qu'il n'a qu'un écho de ce que dit le patient. Donc il faut cet alignement tête-cœur-corps. Je l'ai découvert vraiment moi pendant la formation HEC. J'ai découvert que je l'étais pas du tout, en fait. Enfin que je le devenais. C'était ongoing. Mais j'en fais un outil de performance, en fait. Parce que je suis consciente que l'entreprise ne voit que par la performance. Et c'est normal, une entreprise, elle doit vivre. Une entreprise, elle doit faire des bénéfices pour pouvoir payer les factures, les employés, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut qu'elle le fasse de la bonne façon. Et il y a toujours des gens qui seront... c'est pas parce que moi, je me suis pas plu dans les grosses boîtes que personne doit s'y plaire. Ce que je dis aussi, c'est tout le monde ne peut pas bosser dans les grosses boîtes, tout le monde ne peut pas bosser dans les startups. Tu as des profils et il faut réfléchir. Et la première des choses, c'est investissez sur vous. Réfléchissez à ce que vous voulez, investissez sur vous. Et vous y serez gagnant.
Ok, merci beaucoup pour tout ce partage. Malheureusement, on arrive sur la fin de l'entretien. C'est un goût de trop peu pour ma part. Mais je vais...
On pourra en refaire.
Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter ?
Une inspiration positive. Il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Et ça vient de l'abbé Pierre.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, Le Journal du Pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.